Les 8h. Belle journée à tous sur Europe 1. La suite de la matinale avec Isabelle Moreau.
Bienvenue à vous et merci de nous rejoindre dans la matinale week-end en ce samedi 7 mai. Dans un instant, l'interview de Jean-Pierre Elkabbach. Il reçoit ce matin le général Benoît Pugat, grand chancelier de la Légion d'honneur. C'est lui qui remettra tout à l'heure le grand collier de l'ordre à Emmanuel Macron lors de la cérémonie d'investiture. Et voici les titres de cette édition, marqués justement par cette cérémonie d'investiture. Emmanuel Macron, acte 2. La cérémonie est prévue à l'Élysée. Il la veut sobre, vu le contexte politique et la situation internationale. Parmi les quelques 450 invités, une première, la présence de deux anciens présidents, Nicolas Sarkozy et François Hollande. Jean-Luc Mélenchon, lui, se voit toujours à Matignon. Le leader de la France insoumise et désormais de la gauche française estime qu'il a la légitimité suffisante. Il a en tout cas déclaré hier qu'il ne se représenterait vraisemblablement pas aux législatives. Et la convention d'investiture de cette Union populaire de gauche se tient cet après-midi à Aubervilliers. Et puis au 72e jour de guerre en Ukraine, les évacuations de civils doivent se poursuivre ce matin à Mariupol. Il y en a eu une cinquantaine hier. Le Conseil de sécurité de l'ONU a pour une fois plaidé unanimement en faveur d'une solution pacifique à cette guerre. Et dans le même temps, les États-Unis annoncent débloquer de nouvelles aides pour armer l'Ukraine. Tout de suite, place à l'interview de Jean-Pierre Elkabbach.
Bonjour à tous. Week-end.
Votre matinale info sur Europe 1.
Bonjour à tous. Général Benoît Pugat, je suis heureux que vous soyez avec nous, heureux de vous recevoir et de vous entendre, surtout ce matin. Et en tout cas, merci d'être avec nous. Bonjour.
Merci. Bonjour, monsieur.
Dans 3 heures, à l'Élysée, va commencer la cérémonie d'investiture dont on parle beaucoup. Mais au préalable, le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, proclamera les résultats officiels de la présidentielle 2022. Ensuite, c'est vous qui présenterez au président de la République le grand collier de la Légion d'honneur. On peut dire que le nouveau septennat ou quinquennat, le nouveau quinquennat commencera effectivement.
Exactement. C'est après la proclamation officielle des résultats, le grand chancelier présente le collier de la Légion d'honneur et prononce la formule « Monsieur le Président de la République, nous vous reconnaissons comme grand maître de l'Ordre national de la Légion d'honneur et c'est le premier acte présidentiel de la nouvelle mandature. »
Grand maître, ça veut dire ?
Grand maître, c'est-à-dire l'autorité suprême de l'Ordre de la Légion d'honneur créée par Napoléon Bonaparte.
Et vous dites « présentera ». Pourquoi seulement « présentera »
Parce que depuis le président Valéry Giscard d'Estaing, qui avait décidé d'alléger un peu le protocole et d'être plus simple, le président de la République est en habit de ville et mettre le collier autour du cou de l'autorité, comme c'était le cas jusqu'au président de la Pompidou, sur un costume de ville pouvait paraître un petit peu décalé. Et donc le président Giscard d'Estaing avait demandé simplement qu'on lui présente le collier.
Le général de Gaulle, il le portait. Et l'autre part, le général Catroux qui l'avait remis, l'avait embrassé. Est-ce que vous allez embrasser, vous, les présidents?
Non, pas du tout. D'abord parce que ça n'est pas une décoration. Et donc, il n'y a pas l'accolade comme dans un ordre de chevalerie lorsqu'on décore nos compatriotes. Là, il s'agit de la présentation de l'insigne, de la charge, de la fonction de grand maître assuré par le président de la République élu.
Et cette année, la cérémonie va avoir un caractère particulier puisque le suffrage universel l'ayant réélu, vous lui présentez le grand collier de la Légion d'honneur pour la deuxième fois.
Exactement.
Est-ce que l'émotion pour celui qui la reçoit est aussi grande que la première fois?
Il faudrait poser la question au président de la République.
Mais vous les regardez?
Moi, je le verrai. Je sais que la première fois, en 2017, l'émotion était très forte. Le président de la République, à 39 ans, se voyant, après s'être vu remettre les insignes de grand croix de la Légion d'honneur, c'est-à-dire la plus haute dignité de l'ordre, se voit cette fois-ci présenter le collier, c'est-à-dire qu'il commence sa fonction, il reçoit la plénitude du pouvoir présidentiel. C'est évidemment très émouvant. Et je pense que le président de la République, qui va entamer un deuxième mandat, ce qui n'est pas aussi courant qu'on veut bien le croire dans la Ve République, évidemment aura, je pense, des sentiments très forts à ce moment-là.
Et vous le devinez au regard ?
Ah oui, tout à fait. On le voit dans le regard qui est porté à la fois au grand chancelier, mais surtout au collier.
Et vous qui le présentez, il n'y a pas d'émotion ?
Si, bien sûr. D'abord parce que c'est un instant très solennel et il faudrait être très prétentieux de dire qu'on fait ça de façon indifférente. C'est toujours un grand moment. Vous participez à la sonalité de l'événement. Vous participez à l'intronisation, d'une certaine manière, du président à cette investiture. D'ailleurs, on signe un procès-verbal d'investiture à l'issue, le président de la République, puis pour moi-même.
Mais pour un militaire, ça a une signification forte.
Bien sûr, puisque le président de la République représente le chef des armées, même si, comme grand chancelier, je ne suis pas, je n'agis pas comme officier général au sens d'actif du terme, c'est-à-dire de militaire en activité. J'agis comme grand chancelier. Le grand chancelier peut, comme vous le savez, être aussi bien un civil. D'ailleurs, le premier grand chancelier de l'ordre de la Légion d'honneur était l'ACPED.
Alors pourquoi un général ?
Eh bien, il n'y a pas de véritable raison. Le président de la République choisit le grand chancelier parmi les grands croix, c'est-à-dire la plus haute dignité de l'ordre, et qui est fixée par le code de la Légion d'honneur au nombre de 75. Et je pense que si c'est un officier général, c'est parce que l'ordre de la Légion d'honneur a traversé deux empires, deux monarchies, quatre républiques, deux coups d'État, trois guerres, et que le général assure un peu la pérennité apolitique de la fonction.
Général, moi, je peux dire ce que vous ne pouvez pas dire. Vous êtes d'abord un soldat, fils de soldat, chef militaire. Vous avez commandé sur différents champs et combattu sur différents champs de bataille. Vous avez commandé les célèbres forces spéciales. Et d'autre part, vous avez suivi tous les conflits depuis combien de temps ?
Moi, j'ai eu la chance de commencer comme lieutenant, mais principalement après, lorsque j'ai servi à l'état-major des armées jusqu'à mes fonctions auprès du président de la République pendant pratiquement 20 ans, nuit et jour, sur tous les théâtres d'opérations dans lesquels les armées françaises ont été engagées.
Et chef d'état-major particulier de deux présidents de la République, voilà. M. Sarkozy et François Hollande, vous étiez à côté d'eux lors des principaux conflits. Et on peut dire que les guerres, vous savez ce que c'est.
Oui, en tout cas, j'ai pu contribuer auprès des présidents de la République comme auprès des chefs d'état-major des armées dans mes fonctions précédentes, contribuer à faire en sorte que les camarades qui sont engagés sur le terrain aient l'ensemble des moyens et surtout une mission aussi claire possible.
Alors, on revient à l'Élysée. Chaque président de la République a apparemment sa stratégie d'attribution de la Légion d'honneur. Par exemple, cette fois-ci, c'est plus de femmes, plus d'anonymes méritants dans tous les domaines et plus d'égalité, j'ai envie de dire, des mérites et des chances. Et c'est pour cette raison qu'à chaque décoré, il est dit quelques mots.
Oui, tout à fait. Alors, en fait, la parité, l'ouverture à certains domaines dans les mérites qui sont récompensés, en fait, remonte à un petit peu plus longtemps. C'est, comme vous le savez, le président Nicolas Sarkozy qui a introduit la parité la plus stricte possible. C'est également lui qui avait introduit la possibilité, si vous voulez, de nommer des gens dans le domaine associatif.
Mais je veux dire, quand on décore quelqu'un, on dit au nom du président.
Au nom du président de la République, nous vous faisons chevalier ou officier, ou nous vous élevons à la dignité de grand officier ou de grand croix.
Comme vos prédécesseurs, dans le général Georges Chelin, vous êtes, vous l'avez dit, indépendant.
Oui.
Et en principe, vous n'avez pas de couleur politique.
Non. Nous sommes apolitiques, c'est-à-dire nous ne sommes pas inscrits à un parti et nous ne faisons pas valoir nos opinions politiques. On peut avoir des idées personnelles, des opinions personnelles, et on en a, que ce soit loué. Mais...
C'est-à-dire, oui. Mais c'est-à-dire que la même cérémonie peut avoir lieu, quelle que soit la présidente ou le président, et quelle que soit leur couleur politique.
Bien entendu.
Oui.
Même si dans le passé, comme vous le savez, vous avez un grand chancelier de la Légion d'honneur qui a souhaité démissionner, c'était le général de Boissieu,
quand arrivé
à l'époque
François
de l'élection.
Voilà.
Alors
ce matin, Emmanuel Macron ne va pas recevoir les insignes de Grand Croix, etc., parce qu'il les a déjà depuis 2017. Mais quand il y a un président qui sort et un président qui entre et qui est nouvel élu, comment se fait le passage du relais ? Est-ce que quand il se serre la main, ça veut dire quelque chose ?
Ah oui, ça veut forcément dire quelque chose. Lorsque vous avez la relève des deux présidents, vous avez le président montant, c'est-à-dire celui qui prend les fonctions et reçu par le président descendant, comme on dit dans le jargon militaire, celui qui quitte ses fonctions. Et vous avez une période d'une demi-heure à une heure pendant laquelle les deux présidents se voient dans l'intimité de façon totalement secrète et échangent un certain nombre de consignes.
Mais quand ils serrent la main sur le perron de l'Élysée.
Si vous voulez, c'est le moment du transfert d'autorité d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il y a la continuité de l'action de la République et du président de la République. Il n'y a jamais d'interruption et cette poignée de main, c'est le moment où le transfert se fait.
Alors après le collier et la signature, le président de la République va s'adresser d'abord à l'assistance, puis au peuple français. Pendant son discours, on peut imaginer sobre et rassembleur, vont tirer 21 coups de canon des Invalides. J'ai envie de dire, pourquoi 21 ?
Alors, j'ai oublié la raison pour laquelle il y a 21 coups de canon, mais c'est la tradition. Et depuis, une tradition qui revient, qui relève de la tradition monarchique et qui s'est perpétuée. Mais j'ai oublié le sens exact.
Peu importe, mais c'est intéressant de dire qu'il y en a 21. Et le collier est lié à notre grande histoire. Ça vient du Premier Empire, de Napoléon, qui lui l'a porté et l'a créé. Et ensuite, on prit le relais, la Troisième République, la Quatrième et la Cinquième République, avec son fondateur, le général de Gaulle. J'ai vu, parce que vous me l'avez montré, le grand collier. Il a une forme et une composition particulière avec les 16 maillons. Et chaque président a droit à un maillon. Et il y a une sorte de définition de son action. Je ne sais pas si ça se dit un slogan. Pour Emmanuel Macron, qu'est-ce que c'est ?
Pour Emmanuel Macron, pour le deuxième mandat, c'est connaissance du monde. Et le symbole qui est représenté sur le maillon, c'est une map monde avec un livre. En fait, les 16 maillons représentent de façon symbolique les principales activités de l'État, puisque l'ordre de la Légion d'honneur récompense les services, les mérites individuels, civil et sous les armes. Et en conséquence, les maillons représentent un certain nombre d'activités qui couvrent l'ensemble de l'action de la nation. Et lorsqu'on inscrit le nom, chaque maillon correspond à un mandat présidentiel.
Alors, on va vite. Le général de Gaulle, c'était ?
Alors, le général de Gaulle, il faut que je revoie. Il y a littérature. Et littérature
pour le deuxième mandat, il y avait autre chose.
Littérature pour le premier mandat et médecine-chirurgie pour le deuxième mandat.
Nicolas Sarkozy ?
Nicolas Sarkozy, c'était la marine.
Et François Hollande ?
Les blindés.
Ouais. Combien pèse le collier ?
952 grammes, c'est-à-dire presque un kilo.
Ouais. Et on peut dire que c'est la dignité suprême. Et j'ai retrouvé une phrase d'Alfred de Vigny, il disait « la Légion d'honneur ». C'est la plus belle étoile des cieux. Mmh. Autre chose, selon la tradition, après l'investiture, le chef d'état-major particulier du président présente le code, je ne sais pas comment on dit, le code de la dissuasion nucléaire en tête à tête. Vous l'avez fait au moins une fois.
Oui, avec le président Hollande. Mais on parle toujours des codes, si vous voulez. D'abord, c'est une procédure qui est très secrète et c'est l'un des secrets les mieux gardés de la République.
Donc, je ne vous demande pas si c'est un bouton, une
clé. Voilà, il faut que ça se maintienne. Mais il y a effectivement un moment dans la journée, en particulier lorsque le président est nouveau, il y a une transmission, justement, des éléments pour que le président de la République soit investi totalement de cette autorité dans ce domaine.
D'autant plus qu'il est le garant de l'indépendance de la défense et des armées, c'est-à-dire qu'il est maître des sous-marins, des avions, des drones, de l'espace.
Il est le chef des armées, comme c'est stipulé dans la Constitution, et de la Ve République, donc depuis 1950.
Et ça veut dire que tout de suite, il sent la terrible responsabilité d'un coup.
Exactement.
Il passe d'un stade à un autre.
Exactement. Et d'ailleurs, pendant le transfert d'autorité, si je puis dire, entre les deux présidents, celui qui prend et celui qui quitte, je pense qu'il y a un échange de consignes, un échange d'informations sur les questions les plus urgentes et les plus vitales. Et ensuite, dans le domaine de la défense, c'est effectivement le chef d'état-major particulier, puis avec le chef d'état-major des armées, qui ensuite fait l'exposé de la situation opérationnelle.
Donc, vous et le chef d'état-major général des armées, avant de le dire au président de la République, en principe, vous connaissez le secret.
Oui, oui, tout à fait, bien sûr.
Et alors, depuis le 2017, en tout cas, Emmanuel Macron connaît les exigences, les risques, et en même temps de l'arme nucléaire, qui est une arme de non-emploi. Même si Poutine, par exemple, est en train de menacer de frappe nucléaire, nous, on a la dissuasion, mais en principe, on n'emploie pas.
Non, exactement. C'est la stratégie de non-emploi. La dissuasion est de, précisément, le but, c'est d'expliquer à l'adversaire que les dégâts qui lui seront causés sont nettement plus importants que les dégâts qui risqueraient de nous imposer. Donc de le dissuader d'agir.
Mais on peut répondre très vite, riposter très vite. Si,
oui, oui, tout à fait.
Si
je vous dis, c'est
lui
le secret le mieux gardé, et c'est le président de la République qui lui-même s'engage sur ce type de...
Alors, à 11h, c'est-à-dire dans moins de 3 heures, investi avec le grand collier que vous allez présenter, que vous lui remettrez, le président de la République pourra lancer vraiment son deuxième mandat.
Voilà, exactement. C'est le début de son mandat et c'est d'ailleurs la date d'aujourd'hui constitue le premier jour du deuxième quinquennat du président de la République.
Donc nous allons vivre, et vous l'avez bien expliqué, Général Plugain, une journée et un moment de l'histoire de France monarchique, impériale, républicaine, de Nicolas, de Napoléon d'abord, à Macron, en passant par Nicolas Sarkozy et François Hollande, qui sont des prédécesseurs d'Emmanuel Macron et qui seront tout à l'heure à l'Élysée. C'est un symbole aussi.
Ben oui, c'est la pérennité de la vie de l'État. La France continue. Ouais. Les personnes changent, la France continue.
Et vous l'avez montré tout à l'heure. Puis je vous indiquais aussi que les trois colliers de l'Empire, de la 3e et la 5e République, seront exposés au musée de la Légion d'honneur, qui rénové va ouvrir au mois de juin. Merci de votre intervention avec nous. Ça va ?
Très bien, merci beaucoup. Et à l'occasion de la réouverture, il y aura également l'exposition des décorations d'un certain nombre de présidents de la République, depuis Sadi Carnot jusqu'au président Emmanuel Macron.
Vous servirez de guide ?
Voilà. Oui, oui, tout à fait.
Ouais. Comme vous l'avez fait aujourd'hui. Voilà. Merci d'être venu.
Je vous en prie, merci beaucoup.
Merci, Général Benoît Puga. Merci à vous, Jean-Pierre Elkabbach. Demain, vous recevrez Hélène Geoffroy. Elle est maire PS de Vaux-en-Velin. Elle est vent debout contre l'intégration de son parti à l'Union populaire de gauche. Et elle mène l'opposition face à Olivier Faure, le patron du Parti socialiste. Ce sera donc demain. Pour l'heure, l'actualité en bref, Elisa Lukavski.
À 11h précise débutera la cérémonie où Emmanuel Macron sera de nouveau investi président de la République. C'est dans la salle des fêtes de l'Élysée, au son du concerto pour hautbois de Handel, que le président fera son entrée devant 450 invités. À l'issue de la cérémonie d'une heure et demie, 21 coups de canon seront tirés depuis les Invalides. Une cérémonie à suivre en direct sur CNews. Au moins 22 morts et plus de 50 blessés dans l'explosion d'un hôtel de La Havane. Ça s'est passé à Cuba. Une fuite de gaz serait à l'origine de ce drame. Les autorités ont affirmé que des survivants se trouvaient encore sous les décombres. Les fouilles se poursuivent avec des brigades canines. Et puis le nombre de traversées de la Manche qui a triplé depuis le début de l'année. D'après le ministère de la Défense britannique, 7000 migrants ont déjà atteint les côtes anglaises. En 2022, l'an dernier, à la même époque, le chiffre s'élevait à environ 2400 traversées.
Dans un instant, la matinale week-end continue exceptionnellement ce matin. Notre face-à-face, ce sera Elisabeth Lévy face à Guillaume Perrault, programme La guerre en Ukraine. Nous évoquerons aussi bien sûr l'acte 2 pour Emmanuel Macron, réinvesti aujourd'hui à l'Élysée. En attendant de savoir qui il nommera à Matignon, nous verrons quel est le profil idéal du futur Premier ministre selon les Français. A tout de suite.
Votre matinale info sur Europe 1.
Isabelle Moreau.
Bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant dans la matinale. Le week-end, c'est l'heure du face-à-face. Et ce matin, j'accueille exceptionnellement et avec grand plaisir Elisabeth Lévy. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en ce samedi.
Merci
matin.
De m'accueillir.
Mais c'est un grand plaisir.
À l'honorable place de Guillaume Bigot.
N'est-ce pas ? Directrice de la rédaction de Causeur. Et face à vous, un habitué, Guillaume Perrault. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Rédacteur en chef de Figaro Vox. Une demi-heure pour débattre ensemble des grands thèmes de l'actualité de ce samedi 7 mai. On va bien sûr parler de l'investiture d'Emmanuel Macron dans quelques instants. Mais d'abord, la guerre en Ukraine, cette inquiétude qui monte à deux jours maintenant de la grande fête nationale en Russie. Sur le terrain, les évacuations continuent à Marioupol. Près de 500 personnes ont pu fuir en une semaine, 50 hier. On fait le point avec Clémence Barbier, on en parle juste après.
Ils sont les derniers à fuir l'enfer de Marioupol. Ces civils ont été évacués hier sous l'égide du Comité international de la Croix-Rouge et de l'ONU. Des évacuations au compte-gouttes. Selon Kiev, le cessez-le-feu décrété par Moscou n'est que partiellement respecté.
Les gens sont évacués dans la mesure où nous pouvons le faire. Les Russes ont tué tous ceux qui vivaient. Marioupol est complètement détruite.
À l'aube du 9 mai, date à laquelle la Russie célèbre sa victoire contre le nazisme, les autorités ukrainiennes s'inquiètent des bombardements accrus sur l'aciérie Azovstal. Sa prise totale serait qu'une question d'heure, selon un séparatiste pro-russe interrogé par un journaliste.
Vous pensez que la prise de l'usine prendra encore du temps ?
Je ne pense pas beaucoup, mais je ne peux pas dire.
Et comment réagissent les civils ?
Ils sont contents que nous soyons venus.
Au total, près de 500 civils ont été évacués depuis le week-end dernier, mais des centaines de militaires seraient encore retranchés dans les sous-sols d'Azovstal.
Et dans le même temps, alors que l'on voit ces images d'une ville martyre totalement saccagée, on voit aussi d'autres images de Russes qui nettoient la ville, qui essayent de l'embellir en perspective de ce fameux 9 mai, ce jour de la victoire, où on attend une parade sur la place Rouge à Moscou pour Vladimir Poutine. Qu'est-ce qu'il veut dire avec Mariupol, Guillaume Perrault ?
Je pense qu'on attend aussi un petit défilé militaire dans Mariupol même. Le 9 mai comme symbole de la russification de la ville et donc de son rattachement, en tout cas provisoire, à la Russie. Le 9 mai, c'est évidemment fondamental pour les Russes puisque c'est ce qu'ils appellent la victoire de la grande guerre patriotique. C'est comme ça qu'ils appellent la guerre germano-soviétique. Et pour Poutine, c'est crucial comme date puisque c'est ce qui fonde sa prétention à ce que la Russie soit reconnue comme une très grande puissance. Et donc il vit dans la nostalgie de l'apogée de la puissance russe qui était 1945, en occultant au passage tout ce qui dérange dans la Deuxième Guerre mondiale. Le pacte germano-soviétique, qui est complètement occulté, celui d'août 1939, il passe à l'as. Évidemment, on ne va pas en parler le 9 mai. On ne va pas parler non plus de l'incompétence de l'état-major de l'armée rouge qui est une des causes des pertes sanglantes des soviétiques, et pas non plus de l'aide américaine massive que Staline a obtenu, parce qu'il ne faut pas l'oublier, si les Soviétiques ont donné leur sang de façon admirable pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Américains ont donné des camions, des bottes, des obus, des chars, et tout ça a joué, beaucoup. Non, pas des chars, pardon, mais beaucoup de matériel et de logistique, et ça a contribué à la victoire contre l'Allemagne nazie en
1945.
Je suis à peu près évidemment d'accord avec cet excellent développement. J'ajoute quand même... Je suis en train de relire « Vie et destin », qui me semble être une très bonne, de Vassili Grossman, qui me semble être une très bonne lecture, non pas pour comprendre au jour le jour ce qui se passe en Ukraine, mais peut-être pour comprendre quelque chose de l'investissement russe. Vous savez qu'une partie de « Vie et destin » se passe à Stalingrad, et c'est quand même, dans la mémoire russe, il faut quand même savoir ce que c'est. Si vous voulez, c'est quand même, vous avez tout à fait raison de rappeler les conditions géopolitiques, mais c'est quand même quelque chose d'énorme. Et je pense que ça reste encore en Russie. On oublie dans les choses gênantes aussi ce qui s'est passé après la guerre. Vous savez, les Russes parlent beaucoup de leur humiliation. Et je pense qu'il ne faut pas du tout le négliger. Je pense que l'idée de mettre à genoux toute la puissance russe, c'est une mauvaise idée, si vous voulez, et que, je veux dire, ils ne l'accepteront pas. Donc ça nous créera un foyer de tension permanente. Donc ça crée quand même une situation compliquée. Mais dans les choses gênantes, il y a donc le fait, si vous voulez, que eux-mêmes se sont évidemment assis ensuite, si vous voulez, sur le droit des peuples, sur la volonté des peuples. Et bien entendu, quand on rappelle, si vous voulez, toutes les questions de l'OTAN qui ont pu être ressenties effectivement comme une volonté d'encerclement par Vladimir Poutine, il faut aussi rappeler que les Polonais, les autres, les Tchèques, les Roumains, etc., je veux dire, avaient de la présence soviétique d'assez mauvais souvenirs. Et donc, je trouve que ça nous met... Alors, ce qui se passe à Mariupol, d'ailleurs, parce que là, on est dans une région particulière. On n'est pas à Kiev, on n'est pas à l'ouest de l'Ukraine.
On est complètement au sud. Hein.
Oui, oui. Et puis, on est quand même dans une partie, si vous voulez, sur lesquelles ils ont des prétentions depuis longtemps et qui sera peut-être un élément de la négociation. Je ne sais pas ce qu'en pense Guillaume, mais il y a quand même beaucoup de populations russophones dans cette partie de...
Il y a beaucoup de populations russophones, mais ils ont vu leur sentiment national... ukrainien exacerbé par l'agression, l'agression russe. Donc les pronostics de ce point de vue de soutien de l'opinion russophone,
vous avez tout à fait raison,
ont été complètement démentis.
Oui, oui, ils attendaient d'être accueillis avec des fleurs en quelque sorte. Voilà. Ça ne s'est pas du tout passé. Ils ont créé, comme ça se fait souvent, le sentiment national. Vous savez, je pense que les Israéliens ont beaucoup créé le sentiment national palestinien. Non, mais c'est vrai. J'ai pu le voir moi, et je pense que les Russes auront réussi ce tour de force de créer un sentiment national ukrainien. Mais moi, ce que je trouve, c'est que tout ça nous pose à nous un dilemme. Parce qu'on ne peut pas être complètement, si vous voulez, simplement dans l'émotion, dans le fait de se dire « attention, il faut arrêter Poutine parce que ça n'est pas bien », se rappeler 38...
Oui, puis craindre une troisième guerre mondiale aussi, par ailleurs.
Voilà, non, mais on ne peut ni être, si vous voulez, que dans la pure émotion, en se disant « nous l'arrêterons à tout prix », et les Américains ont un petit peu tendance à dire « nous nous battrons jusqu'au dernier Européen s'ils le font », si vous voulez, ce qui est quand même un peu inquiétant. Et on peut pas être non plus dans la réelle politique pure, si vous voulez, en se disant... Est-ce que nos intérêts vitaux sont menacés? Je sais pas, il y a la question du gaz, du pétrole. Donc je trouve, ça nous met dans une situation assez délicate. Mais moi, je pense que l'idée, si vous voulez, si l'idée des Américains, parce qu'il y a quand même la donnée américaine maintenant, et si vous voulez, de faire subir à la Russie, avec des variantes, le sort de Saddam Hussein en Irak, je pense que c'est une très mauvaise idée. La Russie n'est pas un pays négligeable et on ne va pas l'éliminer du jeu, si vous voulez. Je ne sais pas ce qu'en pense Guillaume.
Alors, on saura ce qu'en pense Guillaume Perrault dans un instant, juste après le rappel des titres. Elisa Lukaski, il est 8h30.
Une personne décédée hier soir à la foire du trône de Paris. La victime est un homme employé d'un manège. En voulant ramasser la casquette d'un client, il a été heurté par le manège. Les enfants présents dans l'attraction au moment du drame ont été pris en charge psychologiquement. Selon le Kremlin, pas de défilé prévu à Marioupol pour le 9 mai, jour de la victoire en Russie. Depuis quelques jours pourtant, la grande ville portuaire du sud-est de l'Ukraine, ravagée et presque entièrement sous contrôle russe, voit ses avenues principales nettoyées en urgence à la demande des Russes. 5,2 milliards de dollars, voilà le montant de l'offre de rachat du club de foot de Chelsea. C'est un groupe dirigé par Todd Boehly, copropriétaire de l'équipe de baseball des Los Angeles Dodgers, qui va acquérir le club de football londonien, qui a été mis en vente, pour rappel, en mars par le russe Roman Abramovich.
Merci beaucoup Elisa. Une réaction, Guillaume Perrault, à ce que vient d'annoncer Elisa, pas de défilé à Marioupol?
Alors visiblement, ils ont renoncé.
Ça vous a surpris tous les deux d'ailleurs?
Oui, parce que c'était un projet dont ils ne faisaient pas mystère ces derniers jours. Alors peut-être qu'en définitive, ils considèrent que les conditions de sécurité et que leur victoire est... Oui, puis que leur victoire n'est pas si éclatante, puisqu'il y a le dernier carré autour de ce fameux complexe sidérurgique qui continue à résister, et que donc ils ont renoncé à leur idée. Mais sur le fond... Ce qui me préoccupe, c'est qu'en effet, on a d'un côté la paranoïa de Poutine qui préexiste, et le ressentiment de Poutine qui préexiste à toute prise de position occidentale. Elle n'a pas besoin d'être alimentée par les Occidentaux, elle préexiste. Et de l'autre côté, on a maintenant que les Ukrainiens sur le terrain ont fait la preuve de leur grand courage, leur capacité de résistance, on a un discours de plus en plus dur des Américains qui affichent maintenant... leur volonté de saigner à blanc l'armée russe, quasiment en ces termes, en disant comme ça, elle ne pourra plus être un danger. Évidemment, les pays d'Europe centrale et orientale, comme les Baltes et les Polonais, qui savent dans leur chair, dans leur histoire, ce que c'est que l'occupation soviétique, ils sont sur cette ligne dure. Mais c'est inquiétant de penser qu'on n'offre pas une porte de sortie. Macron, il fait ce qu'il peut, mais c'est quand même les Américains qui sont déterminants dans cette affaire. C'est inquiétant, je trouve, qu'il n'y ait aucune perspective diplomatique et aucune main tendue face à quelqu'un qui semble prêt à tout, parce que parfois, Poutine fait ce qu'il a annoncé.
Il
a
quand même... Et là, en l'occurrence, il est en train de réitérer ses menaces,
par exemple, nucléaires. Ça ne me paraît pas devoir être balayé d'un revers de la main en ricanant.
Alors là, excusez-moi, là, on est purement chacun dans la subjectivité. Moi, je n'y crois pas. J'avoue, j'ai peut-être tort. Peut-être que je serai démenti demain par l'épée. Je n'y crois pas. D'abord, je ne crois pas que Poutine soit complètement irrationnel.
Non, pas du tout.
Donc, si vous voulez, il y a une sorte d'irrationalité ou de côté suicidaire. Évidemment, l'arme nucléaire est faite pour ne pas être utilisée globalement. Ouais. Et c'est ce qui se passe depuis 1945. Et en plus, c'est le genre de menace. Normalement, c'est un one shot. Si vous voulez, vous pouvez pas tous les quatre matins dire attention, je vais employer l'arme nucléaire. Donc moi, ça me paraît plutôt être une preuve de faiblesse. Là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, c'est sur l'idée que Poutine aurait toujours été ce Poutine-là. Alors, comme vous dites, sa paranoïa a préexisté. Je ne veux pas parler simplement, la psychologie ne peut pas expliquer tout. Mais il me semble qu'il y a eu des années où Poutine était plutôt prêt à négocier, si vous voulez, avec l'Occident, à négocier sur la sécurité européenne globale, y compris à négocier avec l'OTAN, je veux dire. Et que peut-être il y a des occasions qui ont aussi été perdues, si vous voulez, parce que n'oublions pas quand même, il y a une réalité géopolitique. Encore une fois, la Russie, c'est quand même un grand pays. Ça ne peut pas être, si vous voulez, si l'idée que ça doit être un nain politique me paraît mauvaise. Et puis je voulais vous poser une question qui a été posée par mon collègue Jonathan Sixou. Si vous voulez, moi j'entends très bien que effectivement nous avons une solidarité avec l'Ukraine, etc. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Mais nous avons aussi une certaine dépendance par rapport à l'énergie russe, peut-être nous moins que les autres, mais ça va commencer.
Et la question dans l'embargo qui se repose.
Non, mais attendez, qu'est-ce qu'on fait demain? C'est ce que disait mon camarade Jonathan Sixou. Qu'est-ce qu'on fait demain si la Chine envahit Taïwan? Nous sommes encore plus dépendants de la Chine. Vous
alors,
savez.
Réponse très rapidement. Alors, on veut parler de l'investiture et de la politique en France.
Ça fait beaucoup de questions. Ouais. Je ne pourrais pas répondre à tout en 20 secondes. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que quand Poutine parlait de négociation, dans son esprit, c'est une espèce de Yalta. Ça voulait dire, donnez-moi les mains libres dans mon étranger proche pour faire régner l'ordre et faire reconnaître ma primauté sur les pays dont on a dû reconnaître l'indépendance en 1991. C'est ça ce que Poutine appelait négocier. C'est quelqu'un qui respire les rapports de force. Donc, comme vous, je regrette certaines humiliations inutiles dans les années Clinton, quand les États-Unis ont eu la grosse tête. Mais je dois reconnaître que ça a été un aliment à la paranoïa russe. Mais la paranoïa russe, ce ressentiment-là, si vous voulez, il est permanent dans l'histoire russe. Et il n'a même pas besoin d'erreurs côté occidental pour être présent et dangereux.
Bah, un mot juste sur le Clinton et les démocrates en général. Les démocrates, c'est ce que dit aussi Natasha Polony dans son édito de Marianne. Les démocrates américains ont un petit peu tendance à, si vous voulez, se défausser sur la Russie de leur défaite. De Hillary Clinton
2016.
Face à Trump. Si vous voulez, au lieu de se demander si peut-être ils n'avaient pas une ligne qui n'allait pas du tout, si vous voulez, leur idée, ils ont décidé que c'était la faute à Poutine. Ça me semble un peu court, jeune homme. Et n'oubliez pas que les Américains n'ont pas seulement des émotions, des idées, des valeurs, ils ont des intérêts. Et dans cette crise...
Gros intérêts économiques, effectivement.
Bah, écoutez, oui, dans cette crise, ils ont aussi des intérêts.
Bien, c'est en fin de matinée, dans 2h30 maintenant, que Emmanuel Macron sera officiellement réinvesti président de la République. Pas moins de 450 personnes attendues à l'Élysée. Où vous vous trouvez ce matin, Élodie Huchard? Une cérémonie sobre, hein, Élodie, vu le contexte politique qu'on évoquait à l'instant, la situation internationale. Ça va s'en tenir à un strict protocole, c'est ça?
Oui, exactement, parce que forcément, le fait que ce soit le deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron lui évite certains passages qu'on voit d'habitude, notamment son passage sur les Champs-Élysées ou bien encore à la mairie de Paris. C'est une tradition, certes, mais ça n'est pas une obligation. Donc, une cérémonie qui va durer entre 1h et 1h30, c'est évidemment très codifié. On va voir les mêmes images qu'en 2017, c'est-à-dire que le président de la République va entrer à 11h dans la salle des fêtes. Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, va proclamer les résultats. Ensuite, ce sera le passage où on va lui présenter son collier de grand maître de la Légion d'honneur. Ensuite, il va faire un discours, il saluera les invités. Ensuite, deuxième étape dans les jardins de l'Élysée. D'abord, on va entendre ces 21 coups de canon qui sont tirés depuis les Invalides. Et puis, il passera les troupes en revue. Alors, tout ça est évidemment très codifié. Mais évidemment, chaque président a envie d'apporter sa touche particulière. Alors, il peut le faire notamment, évidemment, dans le choix des invités. Hormis ses prédécesseurs ou les membres de son gouvernement et sa famille, Emmanuel Macron a choisi d'inviter certains invités de secteurs particuliers, notamment le sport, la jeunesse ou bien encore la santé, moyen de rappeler que la crise du Covid a véritablement marqué ce quinquennat. Et puis surtout, on nous dit, l'Élysée, que cette crise n'est pas encore finie et qu'il faut mettre en avant le monde de la santé. Et évidemment, on va guetter aussi de près son discours. Alors attention, parce qu'il ne parlera pas réforme ou mesure. Ce sont des discours de vision, d'ensemble, avec un peu plus de hauteur. Et puis surtout, on va regarder aussi les troupes qu'il a conviées aujourd'hui. En plus de la Légion étrangère, il a choisi certains détachements, notamment ceux qui sont engagés sur la lutte contre le terrorisme. Une cérémonie donc un petit peu plus courte que l'an dernier, parce que tout se passera ici à l'Élysée.
Merci Élodie. Avec Alice Delage, j'en profite, Elisabeth Lévy, pour parler de votre une du magazine Causeur pour ce mois de mai. Macron 2, que la fête commence.
Elle commence aujourd'hui, alors vous savez.
Bon, là, c'est pas particulièrement festif, hein, finalement, cette investiture à l'Élysée aujourd'hui.
Que la fête commence, c'est la régence, hein, c'est pas non plus particulièrement, si vous voulez, ça n'est pas que festif en tous
les
cas.
Non, mais j'avais bien compris l'allusion, effectivement.
Non, c'est pas particulièrement festif, on l'a assez dit, si vous voulez, première fois qu'un président de la 5e, sa réélection, enfin c'est pas la première fois, il y avait François Mitterrand, si vous voulez, donc effectivement il n'y a plus l'effet de nouveauté du jeune et nouveau président sorti de son, si vous voulez, de Londres, pour réconcilier la France. Et je pense en réalité qu'il y a beaucoup moins d'enthousiasme. Il y avait un certain enthousiasme, en tous les cas, parmi les partisans d'Emmanuel Macron en 2017. Il y avait cette idée qu'une révolution allait venir. Évidemment, il y a beaucoup moins d'enthousiasme.
Là, c'est une renaissance dont on parle. Alors, je fais allusion, évidemment, au nouveau nom de la République.
On dirait un nom de secte. Excusez-moi, ça me paraît... ce nom me paraît tout à fait bizarre, mais ça me paraissait encore plus bizarre de donner ses initiales à son parti. Non, moi, ce que j'attends, c'est le discours. Et pour tout vous dire, il y a quelque chose qui m'inquiète, en fait. C'est que, depuis, pour tout le reste, décorum, Nicolas Sarkozy, tout ça, bon, on l'a beaucoup commenté, ce qui m'inquiète, c'est qu'en fait... Emmanuel Macron, qui dit évidemment vouloir réconcilier la France, s'est adressé essentiellement aux électeurs de gauche. Et il y a un électorat, si vous voulez, et c'est aussi une coupure sociologique aujourd'hui. Il y a, comme toujours, une France qui, finalement, c'est la France des Gilets jaunes, c'est la France qui a voté RN. Celle-là, si vous voulez, on a l'impression qu'elle a disparu des radars, que Jean-Luc Mélenchon a quasiment gagné l'élection présidentielle, qu'il n'y a plus que les électeurs de gauche à qui il faut faire des mamours et des câlins, si vous voulez. Et moi, j'aimerais savoir comment on va s'adresser à cette France, si vous voulez, qui n'est pas une France gagnante, et cette France qui, elle veut des frontières, elle veut de la nation. Vous savez, Jaurès disait que la nation, c'est la richesse des pauvres. Et moi, je suis très inquiète que les questions identitaires et régaliennes aient été balayées, que maintenant on nous explique qu'il n'y a plus qu'une chose qui compte, c'est le pouvoir d'achat. L'homme ne se nourrit pas que de pain.
Donc vous allez suivre très attentivement le discours d'Emmanuel Macron.
C'est ça que j'attends, si sait, oui, hein, le reste, c'est 21 coups de canon, tout
ça. C'est pas un discours de politique générale, Élodie Huchard l'a rappelé.
Pour le décorum, je préfère le jubilé de la reine d'Angleterre, c'est plus marrant, mais...
Et ça, ce sera la semaine prochaine. Guillaume Perrault.
Oui, bon, c'est, bien sûr, c'est un passage imposé, cette cérémonie d'investiture. Modeste, ça va pas marquer les esprits comme celle qui avait eu lieu en 69, par exemple, pour Pompidou, où le grand maître de l'ordre de la Légion d'honneur, d'abord, ça a été rappelé, ils étaient en habit, donc ça avait beaucoup d'allure, on voit ça dans les livres d'histoire. Et surtout, le président du Conseil constitutionnel fait aussi un petit discours quand il prononce une petite allocution, ouais. Quand il prononce les résultats. Voilà, donc là, ça va être fabuleux. Et à l'époque, le président du Conseil constitutionnel avait dit à Pompidou, « Ainsi, vous ayant vu à l'épreuve, le pays vous a marqué sa confiance. » Qu'est-ce que ça voulait dire? C'était une allusion à mai 68. Parce qu'en mai 68, devant toute la France, c'est De Gaulle qui avait tenu les rênes de l'État et qui avait fait face. Et c'est Pompidou qui avait tenu les rênes et De Gaulle avait paru dépassé. Donc c'était autorisé une allusion à la politique, immédiate. On va voir si Fabius fait la même chose avec Macron. Voilà ce qu'on peut dire sur cette cérémonie.
C'est intéressant. J'ignorais. Non, mais parce que oui. C'est. Normalement, vous savez, ce sont des gens quand même très en retrait, très... ils rentrent pas dans l'arène politique, justement.
Fait marquant quand même, il y a 450 personnalités de gauche, mais aussi de droite, et c'est symboliquement représenté par la présence de deux anciens présidents de la République. C'est la première fois que ça arrive, Nicolas Sarkozy, François Hollande, Elisabeth.
C'est là, d'abord, il me semble qu'il n'y a pas eu si souvent la possibilité qu'il y ait d'anciens présidents de la République à cette cérémonie. Ça me semble relever quand même d'une sorte de bonne manière républicaine, Je trouve pas que ce soit absolument... Si vous voulez, on peut parler, c'est sûr que Guillaume Perrault connaît ça bien mieux que moi, sur la question Sarkozy dans cette affaire, si vous voulez, mais je ne crois pas que ce soit sa présence à l'Élysée aujourd'hui qui me semble, si vous voulez, ça s'est jamais passé, parce qu'en fait, si vous voulez, ça il n'y a jamais eu vraiment la possibilité que ça se passe. Donc, non, on va regarder, évidemment, les invités, tout ça, les robes de Brigitte Macron, tout ce que vous voulez. Bon... moi, ce que j'attends de savoir, c'est à quel Macron nous allons être mangés, si je puis dire, parce que, vous voyez, le président a dit tellement de choses qu'on ne sait jamais avec
lui. Justement, sur ce discours, on sait bien que c'est pas un discours de politique générale, pas d'annonce de réforme, de mesures, etc., mais une espèce de vision du quinquennat, Guillaume Perrault.
Oui, il va certainement avoir des propos rassembleurs, ménageant les uns et les autres, parce que le paysage politique français est maintenant divisé en trois blocs.
Et s'adressant à la droite qu'évoquait Elisabeth Lévy tout à l'heure.
Je l'espère, pour ma part. Effectivement, il ne faudrait pas oublier ces résultats du premier tour, et encore moins ceux du deuxième tour, et faire comme si, là je suis tout à fait d'accord avec Elisabeth, faire comme si toutes les questions qui avaient motivé le vote en faveur de Marine Le Pen ou d'Éric Zemmour, dans une moindre mesure, avaient disparu. Parce que là, vous savez, les experts disent qu'il y a un sinistrisme de la vie politique française. C'est-à-dire que ça va toujours vers la gauche. Naturellement, s'il n'y a pas quelqu'un qui lutte contre la tendance naturelle de la vie politique française, ça va spontanément vers les questions de gauche et une vision de gauche de la société. Et donc, le fait que le pouvoir d'achat se soit imposé au détriment d'autres thèmes, c'est évidemment une demande des électeurs, c'est vrai. Mais c'est aussi une tendance des commentateurs, des hommes politiques, et qui fait qu'on n'a pas forcément une vision, je dirais, exacte de l'état du pays.
Ça me paraît très important. C'est-à-dire qu'effectivement, soit on s'est complètement trompé depuis 5 ans et la France n'est pas du tout à droite, si vous voulez. Et là, honnêtement, je ne le crois pas. Mais on s'est trompé sur une chose, c'est-à-dire que l'hégémonie culturelle, si vous voulez, les faiseurs d'opinion, il suffit de lire Le Monde en ce moment. Le Monde est en ravissement devant Jean-Luc Mélenchon, si vous voulez, c'est extraordinaire. Donc les commentateurs, les faiseurs d'opinion, les facs, les artistes, les sportifs, tout ce que vous voulez, si vous voulez, tout ce beau monde. C'est d'ailleurs assez amusant, c'est que la gauche a quand même toute la grande bourgeoisie intellectuelle ou sportive ou ce que vous voulez de ce pays. Donc c'est plutôt une question d'hégémonie culturelle, mais vous avez tout à fait raison, c'est quand même un problème.
Alors, on a parlé de l'Élysée, on va parler de Matignon. Qui pourrait être le nouveau locataire à Matignon? Les Français ont une idée, on verra votre avis dans un instant, juste après les titres. Il est 9h moins le quart, Elisa Lukaski.
À 11h précise débutera la cérémonie où Emmanuel Macron sera de nouveau investi président de la République. C'est dans la salle des fêtes de l'Élysée, au son du concerto pour hautbois de Handel, que le président fera son entrée devant 450 invités. À l'issue de la cérémonie d'une heure et demie, 21 coups de canon seront tirés depuis les Invalides. Une cérémonie à suivre en direct sur CNews. Joe Biden annonce une nouvelle aide militaire à l'Ukraine. Le président américain a hier annoncé que cette enveloppe s'élevait à 150 millions de dollars et que cette somme comprenait des munitions d'artillerie et des radars. Avec ces différentes aides militaires à l'Ukraine, le président américain a demandé une rallonge budgétaire de 33 milliards de dollars au Congrès américain. Et puis la lutte face à l'érosion des côtes en France. 126 communes prioritaires ont été listées par le gouvernement pour adapter leurs littoraux à l'érosion. Les maires devront se soumettre à différentes règles d'aménagement du territoire, pouvant aller jusqu'à des interdictions de construire.
Elisa, on vous garde parce qu'on va s'intéresser au portrait robot du Premier ministre idéal. On sait qu'il y a beaucoup de bruit, de noms qui circulent depuis un moment.
Il aura une veste rose ?
Peut-être, comme Elisa Lukaski à l'instant nous soulignait Elisabeth Lévy. Qu'est-ce que ça donne ce sondage Odoxa pour le Figaro, Elisa? À quoi ressemble ce Premier ministre idéal pour les Français?
Pas sûr qu'il ait une veste rose, hein, parce que les Français, ils s'attachent peu au genre de ce prochain Premier ministre. Vous le voyez, pour plus des deux tiers d'entre eux, 68%, peu importe que ça soit un homme ou une femme. L'âge n'est pas non plus un critère déterminant. 56% des interrogés ne s'y intéressent pas. Enfin, pas d'importance donnée à son orientation politique pour 46% d'entre eux. Côté profil, eh bien, 43% veulent un élu de terrain. 40% aimeraient qu'il ait plutôt une sensibilité écologique. Ce qui prime pour les sondés, ce sont avant tout les qualités intrinsèques de ce futur chef du gouvernement. Il souhaite avant tout quelqu'un de sincère, qui soit force de proposition, mais qui sache aussi apaiser et qui soit sérieux, évidemment. Les Français, à 77%, veulent que ce Premier ministre agisse d'abord sur le pouvoir d'achat. Viennent ensuite les domaines de la sécurité, à 54%, des services publics et de la transition écologique. Des Français qui veulent également de la nouveauté. 31% aimeraient qu'une personnalité nouvelle soit à la tête du futur gouvernement. Mais parmi les ministres actuels, eh bien certains ont la cote. Bruno Le Maire est celui que les Français souhaiteraient le plus voir reconduit, à 38%. Il devance Jean-Yves Le Drian et Olivier Véran.
Merci Elisa.
Je suis très étonnée, juste, mais et c'est plutôt rassurant. Jean-Yves Le Drian est un ministre assez discret, un bon ministre d'ailleurs. Je suis étonnée que les Français le sachent alors que les médias en parlent très peu. Non mais ça c'est plutôt une bonne chose. Non,
sincère, moi, je voulais lancer...
Moi je voudrais remercier mes concitoyens, si vous voulez. Parce que
pourquoi donc ?
Eh bien parce que ça fait des mois que j'entends, et d'ailleurs ça a été à mon avis une erreur majeure de Valérie Pécresse, que j'entends qu'on m'explique que ce serait tellement merveilleux d'avoir une femme à l'Élysée, ou une femme, et j'entendais dire aussi qu'il a dit que Emmanuel Macron comptait nommer une femme à Matignon. Si vous voulez, et j'en ai un peu ras-le-bol qu'on utilise les femmes pour faire moderne et progressiste. Moi, je me fiche personnellement, mais totalement. Je ne me sens pas plus représentée par une femme que par un homme. Je m'en fous éperdument. Et je suis très contente. Non, mais ça, c'est vrai, je trouve ça très important que les Français ne cèdent pas à cette mode, parce que c'est une mode, si vous voulez. Je veux dire, on a un président et un premier ministre. Ben oui, on ne va pas en plus se mettre un critère qui n'a aucun sens de leurs compétences, si vous voulez. Donc, voilà, pour le reste, il y a quelques contradictions. La sincérité, c'est intéressant parce que ça fait des années, si vous voulez, que tout le monde dit on en a marre de la langue de bois, il y en a marre de la langue de bois, mais c'est quand même assez difficile d'en sortir, si vous voulez. Par exemple, je vois rarement des gens être capables de dire bah oui, peut-être là-dessus on a fait des erreurs, si vous voulez. C'est toujours, il faut entendre, nous avons ici une porte-parole de l'AREM, enfin de pouf pouf, comment ça s'appelle,
Renaissance,
merci, de Renaissance, si vous voulez, qui est bien souvent, et quand on l'écoute, si vous voulez, c'est on a été merveilleux sur tout. Et je pense que les Français n'aiment pas ce genre de discours, et c'est vrai. Je veux dire que pour le reste, je laisse. Je sais pas, ça paraît assez bizarre de vouloir à la fois un élu de terrain et quelqu'un de nouveau, etc.,
oui,
etc.
Bon, on n'est pas un paradoxe près, oui, quand on est Français, on le sait bien.
Ça,
mais
c'est vrai.
Guillaume Perrault, sur les qualités, sincère, créatif, élu de terrain. Est-ce que ça vous semble des qualités indispensables pour un Premier ministre ? Est-ce que vous abondez dans le sens des Français finalement ?
Écoutez, on peut interpréter ça comme la recherche de qualités ou de traits de caractère complémentaires et distinct de ceux du président. Mais alors, si c'est ça, c'est inquiétant pour lui, parce que si la sincérité est plébiscitée, ça voudrait dire que les Français n'ont pas confiance de la sincérité du président de la République. Donc, écartons cette interprétation. Elle est trop désobligeante au début d'un deuxième mandat. Ce n'est pas le jour d'une investiture. Attendons un peu.
Vous avez raison.
Attendons un peu.
Non, mais disons qu'on peut dire qu'il est ambigu.
Ça, c'est sûr. Ça, oui. Ça, il est ambigu. Je pense, si vous voulez, quand je vois élu de terrain, que c'est absolument contradictoire, par exemple, avec l'interdiction du cumul des mandats, avec le fait que la figure traditionnelle qui est du député-maire ou du sénateur-maire ou du sénateur-président de conseil général, qui était un classique de la Ve République, maintenant, c'est plus possible, puisque le cumul des mandats a été interdit et est entré en vigueur.
Ça a certainement contribué à un éloignement des Français par rapport aux politiques.
Je suis convaincu que ça a été...
Mais tout le monde pense que c'est une bêtise.
Oui.
Tout le monde pense aujourd'hui, enfin beaucoup, que ça a été une bêtise, mais c'était très dur de s'opposer à cette mode sur les plateaux télé, parce que pendant des années, on vous a expliqué que c'était une exception française, le cumul des mandats, et que donc, puisque c'était une exception, il fallait la supprimer. Et résultat, on se retrouve avec des élus, avec des maires qui ne peuvent pas porter les doléances des citoyens à l'Assemblée nationale et au Sénat, puisqu'ils n'y siègent plus. Et le cas classique, c'était quand vous aviez une circonscription, le maire de la plus grande ville de la circo devenait député. Il se présentait à la députation, il était élu. Et comme ça, il faisait remonter les doléances. Bon, ça calmait un peu le jeu, au moins. Et je pense je suis même convaincu qu'une des causes des Gilets jaunes, de l'ampleur que ça a pris, c'est qu'il n'y avait plus ce relais-là.
Ben, je pense que c'était vraiment... Alors là, Frédéric Dabi dit ça, d'ailleurs, ils ont fait des sondages, et alors les gens, quand on leur dit en général, parce que ça avait l'air d'être moderne, là aussi, de dire il faut arrêter, mais quand c'est leur ville, voilà. Ils disent « Ah, mais qu'est-ce qu'on regrette ?» Le député maire, ouais. Évidemment, c'était un personnage... Je peux ajouter un mot à ce qu'il a dit ?
Très rapidement.
Très rapide. Je pense, si vous voulez, qu'il manque quelque chose dans ce sondage, c'est quelle relation veut-on
entre le président et le Premier ministre, parce qu'effectivement, c'est le couple exécutif et c'est indispensable d'avoir des gens à peu près compatibles.
Hein, oui, Guillaume mais leurs relations sont toujours compliquées parce que Pompidou disait, je y reviens, quand on lui demandait quand est-ce que vous avez pensé à l'Élysée pour la première fois, il a répondu avec franchise, le jour où je suis entré à Matignon. La rivalité, le soupçon sont toujours là entre eux deux.
Un dernier mot, je ne résiste pas à la tentation. Jean-Luc Mélenchon qui se voit Premier ministre, il correspond au profil, selon vous, des Français, Elisabeth ?
Non, mais Jean-Luc Mélenchon est un... Jean-Luc Mélenchon, pardon, a réussi... Un coup extraordinaire, je vous dis, on dirait qu'il a gagné l'élection présidentielle. Bon, là, il faut peut-être qu'il redescende de son petit cheval, là, et qu'il arrête de se la jouer. Parce que, si vous voulez, à l'entendre, en fait, il faudrait déjà le nommer à Matignon avant les législatives, finalement.
Merci Guillaume Perrault, on vous retrouve le week-end prochain. Merci à vous Elisabeth Lévy, vous restez avec nous, on aura l'occasion de reparler de cette union des gauches et de Jean-Luc Mélenchon pour la suite de la matinale week-end sur CNews. Pour les auditeurs d'Europe 1, hein, vous retrouvez Thierry Dagiral et Frédéric Taddeï. Bon samedi à vous.
Merci Isabelle Moreau, on vous retrouve bien sûr demain et on accueille en effet Frédéric Taddeï. Bonjour Frédéric.
Bonjour Thierry Dagiral.
C'est arrivé cette semaine au programme.
La nouvelle union populaire, écologique et sociale, 50 ans exactement après la signature du programme commun. Alors est-ce que ça avait fait grincer autant de dents à l'époque que François Mitterrand s'allie avec les communistes en pleine guerre froide quand même hein. On va voir ça avec l'historien Christophe Abattardi.
A tout de suite Frédéric, dans un instant sur Europe 1, toute l'info à 9h à la une, l'investiture d'Emmanuel Macron ce matin à l'Élysée et l'attente des supporters Nantais avant Nantes-Nice ce soir, finale de la Coupe de France à suivre en direct sur Europe 1. Ne quittez pas, on revient.